Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. Mercredi 28 septembre 2022, 20h pétante, c'est l'horaire de votre quotidienne Time Sport, l'émission qui aborde tous les sujets concernant la planète sportive. Au menu de cette émission, ce mercredi soir, on va parler de quoi ? De la Tunisie, oui, les aigles de Carthage et leur naufrage, malheureusement, dans l'antre parisien qui est le Parc des Princes hier soir face au Brésil. On va revenir, c'est promis, sur cela, sans oublier Neymar, plus fort que Pelé, à deux buts justement du roi Pelé, et d'un record essentiel. On verra bien tout cela dans cette émission, et on n'oubliera pas aussi nos chers clubs de Ligue 1 Uber Eats, avec l'Olympique Lyonnais qui peut-être s'apprête à faire signer Laurent Blanc et qui veut venir aussi, du moins avec un certain Cristiano Ronaldo. Eh bien, ça, c'est assez fort. Vous pouvez réagir au 01 53 48 3000. Le débat du jour, on vous donne la parole. Le Brésil, le vrai favori du Mondial 2022 au Qatar. Voilà, rien de plus simple. Vous nous appelez. Fodil, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne de Beurre FM. On vous fait remporter un magnifique livre aussi. Les 20 ans ensemble contre le cancer du sein. Voilà, aux éditions Solar. Rien de plus simple. Pour essayer de le remporter, vous nous appelez. Alors, on va commencer cette émission ce mercredi soir avec toute l'équipe de Time Sport.
Time Sport. Time Sport. Les pourparlers.
Eh oui, avant de commencer sur la Tunisie, on va pas la taquiner parce que je crois qu'elle a des origines tunisiennes. Bonsoir Yasmine, elle est avec nous ce soir.
Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde. Alors je commençais petit à petit à me remettre de la défaite d'hier soir.
Eh oui.
Puis il y a Viknesh, voilà, qui m'envoie des pics là depuis tout à l'heure. Donc il essaye de faire passer ça avec des gâteaux, mais ça passe pas.
Eh ben justement, Viknesh, eh oui, il a apporté de Venimazuri, c'est ça, des gâteaux. Bonsoir Viknesh.
Salut Bilal, salut tout le monde, salut Yasmine. Bah, il faut adoucir la défaite, donc c'est pour ça en fait. Mais ça va bien se passer, on va pas être méchant.
Eh ben voilà, tout comme Chekib, toujours souriant. Chekib, il est avec nous ce soir.
C'est ça, souriant, parce que je suis ravi d'être ici.
Sinon, ouais.
Quand je suis pas là, je
boude. Tu boudes
souvent, du coup.
Eh oui, bah, Chekib, il met ses disponibilités et il vient. La porte lui est grande ouverte sur Beurre FM. Et Toto Bellozzo est avec nous aussi ce soir, en face de Chekib.
Salut Bilal, salut à tous.
Ça va bien ?
Bah écoute, ça va comme toujours, à chaque fois que je me retrouve ici, c'est il y a toujours de la bonne humeur, il y a une bonne ambiance, donc c'est bien, c'est top.
Ah ben c'est ça, justement, c'est tip top. Bon, du moins pour les Parisiens. Le lapsus. Ben oui, les Parisiens, les Brésiliens du moins avec Neymar sur penalty. Qu'est-ce qui t'arrive, Viknesh ?
Rien.
Ouais, eh ben 5 buts à 1, Viknesh. Eh ben vas-y, Viknesh. Rafinha a ouvert le score, la marque à la 11e, à la 41e, je crois. Et après, on a eu Richarlison à 19e, Neymar aussi et Pedro. 5 buts à 1. Et pour les Tunisiens, on le rappelle, c'était Talbi.
Talbi, c'est ça. Du coup, pour parler du match, bon, pour commencer par une note positive, c'est que,
alors,
en tout cas, les Tunisiens, ils ont bien joué. Enfin, ils ont fait ce qu'il fallait faire de leur côté.
Le stade était complet aussi. Hein.
Le stade était complet, l'ambiance était top. Après, oui, sur la durée, ils n'ont pas tenu. Surtout après le marron de Brown, le carton rouge, c'était compliqué pour la Tunisie. Le Brésil a géré le match. Mais moi, je veux surtout noter la première mi-temps. Parfois, le Brésil, on retrouve le Brésil d'avant. Pourquoi on connaît le Brésil ? Le Brésil, c'est quoi ? C'est le beau jeu, c'est le spectacle, c'est le joga bonito, c'est les gestes techniques, c'est l'efficacité.
Ouais.
On a retrouvé tout ça. Et moi, ce que je voudrais juste souligner,
alors c'est
avant
quoi
de me faire couper par d'autres personnes, c'est que le Brésil, en 2018, on avait mis le Brésil comme favori. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Neymar. Mais sauf que moi, ce n'était pas forcément une équipe favorite parce que tu n'avais que Neymar. Aujourd'hui, tu as une équipe. Tu as un des meilleurs gardiens du monde, tu as une bonne défense. Un bon milieu avec Casemiro, Fred et même Fabinho qui n'est pas titulaire. C'est pour dire que Fabinho, qui est un des meilleurs milieux de terrain du monde, n'est pas titulaire avec le Brésil. Et devant, Neymar qui est dans la forme de sa vie actuellement avec le PSG et la sélection. Meilleur buteur bientôt, sans doute, de l'histoire du Brésil. Ça, c'est un débat avec les Brésiliens. Mais meilleur passeur de la même nation. Mais il est entouré cette fois-ci. C'est ça qui fait la différence. Rafinha, titulaire. Vinicius, titulaire. Richarlison. Ils ont le luxe de mettre Anthony sur le banc et même pas convoquer Jésus qui marche sur l'eau avec Arsenal, dédicace à Mourad.
Ouais.
Donc c'est pour dire que le Brésil a un collectif maintenant. Il n'y a pas que Neymar. Et c'est ça qui peut faire la différence. Mais après, oui, la Tunisie a fait ce qu'il fallait faire. C'était un match amical au Parc des Princes. Ils ont tout donné. Ils n'avaient pas mis tout le monde titulaire non plus. Casri n'était pas titulaire. Donc oui, c'est un beau match. C'est une bonne préparation pour le Brésil. Et après, il ne faut pas oublier que le Brésil, juste pour terminer dessus, ils sont invaincus dans les 15 derniers matchs. Une défaite sur les 20 derniers, ça marque énormément. Il y a une grosse solidité défensive.
Bien sûr.
Donc pour moi, oui, ça fait partie des favoris, si ce n'est le favori de la Coupe du Monde.
Viknesh, là, il vient de dire l'addition aurait pu être plus salée en fait hier pour les Tunisiens. C'est ça, Viknesh.
Si le Brésil jouait à fond les demi-temps, oui. Surtout qu'il y avait la deuxième période, c'était à 10. Donc oui, c'était compliqué.
Ben, pour ma part, effectivement, oui, je suis complètement d'accord.
Brésil-Tunisie.
Viknesh, je pense que le Brésil peut même la gagner deux fois. Ils ont un tel effectif que même avec leur équipe B, pratiquement, ils peuvent le gagner. Mais dans le foot, il ne faut jamais, jamais vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. L'Allemagne est une très belle équipe, un très bel entraîneur. Il y a aussi la France, même si là, ils ont fait une contre-performance. Ça reste la France. Il y a beaucoup de grandes nations, mais c'est vrai que là, le Brésil fait très, très peur. Ils ont des joueurs, des très bons joueurs à chaque poste, et c'est doublé. Et c'est vrai que Neymar est en très bonne forme. Anthony, il va encore exploser encore plus. Rafinha, bref, c'est vraiment une armada très, très lourde. Et surtout, le sélectionneur brésilien, j'ai jamais vraiment été fan, mais là, je crois qu'il est,
il est pas mal.
Vraiment à maîtriser ça. Et souvent, les victoires comme ça, quand t'as des grosses équipes, ça se passe souvent sur le banc aussi. Et là, ils ont un entraîneur qui est vraiment à son prime. Je veux pas leur porter la poisse.
Ouais.
Tout est possible. Mais quand même, c'est quand même un des gros favoris. Je pense que tout le monde est d'accord.
Oui, Toto Belozzo, il est d'accord avec ça.
Ouais, après, je veux pas me fâcher.
Le débat du jour.
Yasmine,
ouais.
Alors, c'est Tunisie.
Tunisie.
C'est vrai qu'on est face à une Tunisie qui a pas mis beaucoup d'opposition. En tout cas, même s'ils ont mis de l'envie, il n'y a pas eu forcément matière à mettre une vraie opposition à cette équipe du Brésil. C'est une évidence que pour moi, le Brésil, c'est l'équipe dont on attend l'éternel retour. Quand on parle du Brésil, souvent on se raccroche un petit peu à un passé, en tout cas dans le contenu, dans le jeu, avec un état d'esprit très joueur, très, ouais, très très beau, comme vous l'avez souligné. Malheureusement, on a un football qui, allez, on va pas encore taper sur Bosman, mais qui depuis Bosman, avec le fil du temps, qui s'est dénaturé. On a une uniformisation du football en règle générale, qui fait que les identités de jeu ont tendance à disparaître. On retrouve parce que les joueurs jouent tous au même endroit en Europe et que c'est dans les plus grands clubs que c'est ultra tactique. Et les premières victimes de ça, c'est les Brésiliens, puisque les meilleurs joueurs du monde, parmi les meilleurs joueurs du monde qui jouent en sélection du Brésil, ils jouent tous en Europe dans les grands clubs. Donc ça, finalement, ça dénature un petit peu le jeu. Malheureusement, le Brésil, ça s'est pas vu pendant longtemps, jusqu'à peut-être la catastrophe de 2014 avec cette déconvenue incroyable contre les Allemands, où on s'est rendu compte finalement à jouer à un jeu auquel on n'est pas voué, finalement à un moment donné ça peut très mal se passer. Donc oui, le Brésil, on attend son éternel retour en espérant que ce qu'ils ont montré, le visage qu'ils ont montré contre la Tunisie, signe peut-être éventuellement le retour sur le devant de la scène avec une Coupe du Monde qui arrive dans pas longtemps et peut-être un Brésil qui va jouer les premiers rôles. Ils ont jamais eu de carence de joueurs, même s'il y a eu des tout petits creux de vague.
Quand même, dans les années 2010, quand même, un peu.
Ouais, mais le creux de vague du Brésil, c'est l'apogée de beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'en termes d'effectifs, si tu parles des années 2010, le Brésil reste quand même
une nation.
C'est révélateur, une équipe qui a toujours été hyper bien armée au niveau de ses joueurs, même s'il y a à certaines époques, ils étaient un petit peu en dessous.
Hier, c'était une affiche de gala. Tunisie-Brésil, on attendait ce match depuis qu'il a été annoncé début septembre. Une ambiance incroyable déjà dans le stade, même aux abords du stade. Tout s'est bien passé durant la rencontre, si ce n'est effectivement quelques débordements dont on aurait pu se passer. Mais pour revenir par rapport à cette rencontre, ça a été un début de match assez étonnant du côté du Brésil, hein, quand même, qu'ils ont pas mal mis de rythme. On les a trouvés appliqués, déterminés, notamment avec l'ailier de Barcelone, Rafinha, qui a été, moi, je pense, qui a été l'homme du match hier. Et côté tunisien, ça a pris l'eau un peu sur toutes les lignes. Au final, la Tunisie voulait se tester face une grosse équipe avant le mondial. Ça a été fait. Et elle a été corrigée 5-1 par le Brésil. Donc, il y a beaucoup de choses. La Tunisie repart, on va dire, de ses matchs amicaux, je dirais, avec beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes aussi. Ça a été une équipe quasi entièrement remaniée par rapport à la victoire qu'elle a connue face aux Comores à huis clos en début de semaine dernière. Donc, je suis assez mitigée parce que finalement, les Tunisiens, dans cette rencontre-là, ils n'ont pas pu exprimer tout ce qu'ils pouvaient exprimer. Ils ont été aussi dépassés physiquement par la rencontre, émotionnellement, techniquement aussi. Même si la première mi-temps, effectivement, elle était, on va dire, ils ont essayé de faire un petit peu concurrence au Brésil. Mais j'ai trouvé que leurs nerfs avaient complètement lâché. Je les ai trouvés très fragiles. Ouais. En même temps, surtout en défense. Pour moi, ça a été vraiment le point négatif de cette équipe tunisienne, la défense, notamment avec. Ils ont très mal joué le hors-jeu par rapport au but de Richarlison. Et puis le gardien aussi, c'était le gardien numéro 2. Donc finalement, il a fait de l'ombre, on va dire, au gardien titulaire. Pour moi, il a été fautif sur les deux buts de Rafinha. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à revoir dans cette équipe tunisienne. Il y a quand même des points positifs, hein, et la présence encore de Msekni qui est assuré pour le moment de pouvoir continuer d'être là pour le mondial. Mais ça va être compliqué pour la Tunisie s'ils n'arrivent pas à relever le niveau et physiquement et techniquement avant la Coupe du Monde. Ça va être très compliqué pour eux de sortir de cette phase de groupe.
Alors Viknesh.
Moi, j'ai une petite question à Yasmine, ouais. Parce que elle est experte. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est positif au niveau tactique que tu as relevé hier pour la Tunisie.
Le milieu de terrain pour moi a été c'est ce qui a été le point positif de ce match, notamment du côté de la Tunisie. J'ai trouvé que la paire du milieu a été assez solide. Il y a eu de l'envie aussi, même à 10 contre 11 en seconde mi-temps. Il y a eu quand même quelques chevauchées de Kasri notamment. Donc ça a été intéressant aussi dans le contenu. Il n'y a pas tout à jeter non plus, mais en même temps j'ai pas forcément d'inquiétude pour la Tunisie. Généralement dans ce genre de match là en Coupe du Monde, ils arrivent à relever le niveau. Bien sûr, pourquoi
ouais.
pas
ben, bien sûr.
Le Danemark, etc. Donc Danemark, non, bon ça peut être possible.
Moi, je trouve. Alors, match, selon toi.
Non seulement c'était un très beau spectacle, comme.
Ouais. Mais bon, je suis pas le Brésil et la Tunisie, nation africaine.
Voilà. Mais en plus, c'est vrai qu'il est comme un révélateur. Même si nous, on supporte les équipes africaines, etc., il faut savoir qu'il y a quand même un monde, il y a un fossé, quand même, c'est clair, entre certaines équipes, les grosses, grosses nations et les équipes africaines. C'est triste. Moi, mon cœur, il pleure quand je vois ça, mais il y a un monde entre eux. Et donc, et c'est pas que technique, tactique, même psychologique. Elle l'a dit, Yasmine, qu'on a vu qu'ils ont été fébriles, etc. Parce qu'effectivement, c'était un match de haut niveau. C'était comme si pour eux, c'était comme si c'était déjà dans le mondial. C'était une vraie prep et ils n'ont pas tenu. Et on n'est pas prêt. Et c'est dommage. Et j'espère que ça va être fait.
On n'est pas prêt. Les Tunisiens sont pas prêts alors pour ce mondial au Qatar. Les nations africaines sont prêtes.
Oui, je pense que
c'est la question qu'on te pose.
Elles ne sont pas prêtes, les nations africaines.
Ah oui, elles ne sont pas prêtes.
Prêtes pour le mondial. J'espère qu'elles le seront dans 4 ans, parce que là, ce n'est pas bon.
Là, ce n'est pas bon.
Non, moi, je suis pas d'accord avec ça.
Oui, et pourquoi? Allez, vas-y, Vignesh.
Parce qu'en fait, je pense que ça dépend, parce que là, par exemple, on a parlé du Brésil. Au Brésil, ils sont tous titulaires. Ils jouent tous dans des grands clubs. Et donc, ils ont l'âme de la compétition. À force de jouer la Ligue des Champions, ils sont habitués à ça. Par exemple, je prendrai l'exemple du Sénégal. Là, on a des bons joueurs au Sénégal. Ils jouent tous, beaucoup en première ligue, beaucoup dans des grands clubs. Ils sont habitués à jouer des grosses compétitions, à être confrontés, être pratiquement de manière hebdomadaire au haut niveau. Donc, je pense que ça dépend aussi de ça aussi. Je pense que c'est je vais pas dire une routine, mais il faut être préparé à jouer des matchs comme ça, de haut niveau. Et je pense que la Tunisie, oui, c'est pas le cas parce que t'as pas des top joueurs dans notre sélection sans faire offense à bien sûr à la Tunisie.
En réalité, tu dis t'es pas d'accord, mais en réalité, t'es complètement d'accord.
En fait, je suis d'accord, sans être d'accord.
C'est lié. L'équipe d'Algérie, pareil.
L'Algérie, ils y seront pas.
Ils partent en Arabie Saoudite et tout. Bien sûr qu'après.
Merci, Chekib. Et aussi l'équipe de Tamsport. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de BORFM. On reviendra ces premiers avec le Brésil et Neymar Junior.
Tamsport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, dans la joie, dans la bonne humeur, avec Chekib qui est là pour m'accompagner. On a Yasmine, notre consultante. Eh oui, il est bien là. Toto Bellozzo et sans oublier Viknesh. Ouais, Viknesh, hein. Qui traîne du côté du 17e arrondissement. C'est ça, si on peut l'apercevoir.
Exactement.
Il traîne bien.
Faire attention à lui.
Les auditeurs de Beurre FM, si vous voulez réagir avec nous, rien de plus simple, vous composez le numéro du standard, le 0153483000. Voilà, on vous fera réagir parce qu'on aborde le débat du jour et aussi cette fameuse Célessa Haro. Le réalisateur, on ne sait pas où il est.
Il dort.
Le sujet des sociaux.
Le réalisateur, il est sur Planète Hollywood. On le comprend si bien, ce Foudil. Eh oui, hein.
En France, de côté des stars. Hein.
Ah, ben, il en compte beaucoup trop, Foudil, de stars. Hein. Eh ben, Inch'Allah, même déjà. Lui, ça deviendra une star. Quoi, Yasmine?
Mais c'est une star.
Ou
Yasmine.
Shakib?
C'est une star.
Shakib aussi, c'est une star. Toto Bellozzo, le Brésil, et c'est Neymar plus fort que Pelé. Non pas Buddy Pelé, mais le roi Pelé, selon la FIFA.
C'est pas Johan, du coup, aussi.
C'est la FIFA qui soulève cette question, c'est ça?
Ah ben oui, deux buts, c'est bien ça, Shakib.
Deux buts, ouais.
Ah ouais.
Officieux.
Son 75e but.
D'accord. Ouais. Donc avec là, le Brésil. La FIFA s'est mise à la question au niveau des questions réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo, Messi.
La FIFA est là. Elle a sa propre plateforme aussi. Hein.
Moi, de base, j'aime pas trop les comparaisons, surtout quand on compare des joueurs d'époques différentes. Pelé, Neymar, c'est pas du tout la même époque. Moi, je suis pas pour forcément les comparer. Évidemment. Pelé, hein, on dit bien le roi Pelé, donc ouais. jusqu'à preuve du contraire, Pelé reste le roi du Brésil. Neymar est encore à quelques longueurs pour pouvoir peut-être un jour le détrôner, en tout cas au niveau de son aura, de ce qu'il a pu apporter au Brésil, de ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu prouver. Maintenant, oui, en termes de joueur, évidemment, ouais. Que Neymar, en termes de talent, c'est un joueur hors norme. Bon, il a fallu qu'il débarque en France pour qu'on commence à le siffler, hein, mais ça je suis pas étonné parce que nous on est on est le pays quand même qui met des cartons à des joueurs parce qu'il fait des dribbles provocants. Tu vois, là, en disant ça, on m'a dit de pas toucher à table, là j'ai envie de la renverser carrément.
On met des cartons
à des joueurs parce qu'ils font des dribbles trop provocants. Ouais. Dédicace à l'arbitre dont je me souviens pas le nom qui lui a mis ce carton là ce jour-là.
C'est sympa.
Mais en tout cas voilà, Neymar.
Non, il lui a mis un carton parce qu'il avait fait sa danse ou il avait fait une célébration, non?
Non, pendant le match, il avait
juste dribblé parce que
il a dribblé avec des dribbles enfin voilà, à la Neymar qui peuvent être parfois un peu provocateurs, mais ça reste du football. Mais bien sûr, mais si on tue le spectacle, mais nous on est le pays du tacle, on aime les coups d'épaule plus que les petits ponts, mais c'est pas grave. Et en tout cas, moi voilà, si on doit comparer les deux, bah très honnêtement, j'ai pas forcément envie de les comparer. Pelé reste le roi, Neymar reste un joueur de très très grand talent qui a quand même encore quelques années devant lui pour écrire son histoire et peut-être celle du Brésil. Voilà, maintenant la FIFA s'il s'emmerde à faire des questions comme celle-là.
Voilà, moi je suis totalement d'accord avec lui.
Alors déjà, c'est qui? Il partage l'avis de Toto Bellozzo.
Déjà Neymar, effectivement, il n'a pas encore fini sa carrière. C'est à la fin d'une carrière qu'on peut tirer un bilan. Ça c'est premier point. Deuxième point, dans le foot, c'est vrai que j'aime pas comparer tête à tête les joueurs, surtout quand c'est pas la même époque.
Non, tu vas pas te battre avec eux. Hein.
Pour moi, ce qu'il y a, c'est dans le foot, c'est comme la mafia. Il y a les affranchis.
Ben non, quand même, arrête un peu.
Les joueurs, ils deviennent sacrés. Ça veut dire qu'ils sont dans un cercle. Et on peut plus les comparer. Tu vois, par exemple, dans ce cercle des affranchis, il y a Pelé, il y a Maradona, il y a Cruyff, il y a Platini, il y a Zidane. Et il va y avoir Messi et Ronaldo qui rentreront à la fin de leur carrière. Donc, on compare pas ces joueurs-là. Oui. Neymar n'est pas encore entré. Peut-être qu'un jour, il rentrera. Et donc, là, il fera partie. Mais dire qui est le meilleur entre Messi, Ronaldo ou Maradona, Pelé, oui.
Pelé loin devant, alors, au Brésil. Yasmine, on l'écoute avec Viknesh.
Neymar qui se rapproche tranquillement de ce record du coup, officiel déclaré par la FIFA. Hein. Il est à deux buts des 77 buts de Pelé. Pour moi, chaque période historique de la CDCAO, elle a sa génération, dans chaque génération, elle a sa propre idole. On a eu à l'époque Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Romario. Voilà, à chaque période, il y a eu un joueur. Donc c'est très difficile de pouvoir tous les comparer en même temps. Et ça serait même limite injuste pour moi. Après, par rapport à Neymar, lui, c'est quelqu'un d'imprévisible. C'est le mec, c'est l'arc et la flèche en même temps. Et moi, par contre, comparé à vous, si Neymar, pour moi, il va dépasser Pelé en termes de nombre de buts. Mais si il ne gagne pas au final, on va dire une Coupe du Monde avec le Brésil, pour moi, il ne figure même pas dans le top 10 des meilleurs joueurs brésiliens.
Non, puis tu sais,
ah, carrément.
C'est
genre de débat, typiquement contemporain où, à travers les stats, on arrive à déterminer le meilleur joueur. Je vais te donner un exemple tout bête. Aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour ce joueur, qui est Olivier Giroud, qui est passé devant énormément de grandes légendes du football français en termes du nombre de buts, est-ce qu'on va comparer Giroud à Zidane? Non. Donc voilà, donc c'est pas une statistique qui fait la grandeur du joueur. Donc oui, peut-être que Neymar marquera beaucoup plus que Pelé en termes du nombre de buts, mais c'est pas pour autant qu'il faut les comparer. Mais c'est très contemporain. Aujourd'hui, on aime bien comparer à travers les stats, et ça on va pas refaire le film, mais Cristiano Ronaldo et Messi, ils sont pas pour rien, parce que
Moi, je suis tout à fait d'accord. J'irai même plus loin. Je dis que c'est très dangereux. Cette histoire de stats fait beaucoup de mal au foot. Je pense qu'un des problèmes qu'il y a dans le Paris Saint-Germain, c'est que ces trois stars jouent aussi avec les stats, ont besoin de stats. Et c'est pour ça que des fois, on préfère tenter le but au lieu de faire la passe, etc. Je pense que cette histoire de stats fait beaucoup, beaucoup de mal. Il faut s'en méfier. Bien sûr, c'est significatif.
Bien sûr.
Bien sûr, c'est important. Ouais. Mais c'est pas ça le centre. Zidane, si tu regardes ses stats, si tu regardes que les stats, c'était pas fantastique. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça. Si on compare les stats de Maradona avec cette demi-cite, le foot, alors que quand tu regardes le match, tu regardes le joueur, son apport. Eriksen aussi, quand tu vois jouer Eriksen, là, ce qu'il fait avec Manchester, et là, ce qu'il a fait avec l'équipe de France,
bien sûr, stats. C'était quelque chose quand même.
Voilà, exactement. C'est pour ça que les stats doivent rester à leur place. Une place importante, mais pas centrale.
Allez, Shakib, avec Viknesh. Il est là, notre Viknesh national.
Donc, du coup, pour parler de Neymar,
Neymar, le Brésil.
Neymar, après.
Leur joueur.
C'est un très grand joueur, on ne va pas dire le contraire. Quand il n'est pas blessé, quand il est sur le terrain, en forme, fit, c'est un joueur exceptionnel. Techniquement, il est incroyable. Un des meilleurs de l'histoire, sur ça, je pense qu'on ne peut rien dire. Au niveau des pénalties, avec sa nouvelle technique, il est incroyable aussi. Mais après, le problème, et au Brésil, ça restera un problème, c'est l'obtention de la Coupe du Monde. Il peut faire ce qu'il veut, devenir meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Là, il est déjà meilleur passeur de l'histoire du Brésil. Mais il lui manque la Coupe du Monde. Il faut être sacré, en fait. Parce que sinon, ça sert à rien. Les Brésiliens, ils attendent que ça. Ils ont eu des phénomènes. Ils ont eu des joueurs comme jamais on en a connu dans l'histoire du foot. Des joueurs extraordinaires. Le Brésil en a des tonnes et des tonnes. Et Pelé, c'est pas n'importe qui. Il a juste trois Coupes du Monde, en fait. Là, on compare Neymar et Pelé, ce qui n'est pas faisable, ce qui n'est pas logique. On peut le comparer avec d'autres joueurs de l'histoire.
Alors,
avec Ronaldinho, même Kaká, si on veut. On peut comparer à ce niveau-là. Sauf que même ces joueurs-là, ils ont eu un ballon d'or. Donc Neymar l'a pas non plus. Donc en fait, Neymar, on le compare juste pour les stats, pour ce qu'il fait. Oui, il a gagné la Ligue des Champions avec le Barça. Il a été très tôt donné comme un des meilleurs joueurs brésiliens, en tout cas à Santos. Certes, il a fait tout ça, il fait des choses incroyables, il est spectaculaire, sur ça on va pas dire le contraire, il est techniquement impressionnant, mais il lui manque la Coupe du Monde. Tant qu'il a pas la Coupe du Monde, on peut pas le comparer à Pelé, et même comme elle a dit Yasmine, oui, alors, 10 meilleurs joueurs brésiliens, facile. En fait, il y en a énormément.
On a des réactions avec Neche, on en a pas mal. On a Nabil, justement, qui nous dit Toto Belodo ce soir est assez mélodieux concernant le Brésil, excusez-moi. Et on a aussi Anna qui nous dit Shakib, il a tout à fait raison, Shakib. Voilà. Les stats, ça veut tout et rien dire à la fois. Voilà, ça pour les réactions.
Mais les stats, on
avec Nabil et Anna, voilà.
Juste un truc que je voulais rajouter aussi. Sur le Viknesh et
on va prendre Karim aussi, l'auditeur.
Justement du palmarès du joueur et du joueur, et c'est toute la complémentarité et de du foot où c'est un sport collectif et il y a de l'individuel, et c'est vrai que des fois tu peux être très très fort collectivement et pas fort individuellement, et des fois tu peux être très fort individuellement et pas fort collectivement, et à la fin on fait le bilan de tout, et c'est la contradiction aussi et la complémentarité du football.
Et j'espère que nos auditeurs n'ont pas été perdus en chemin par Shakib, notre consultant, parce que c'est toujours assez intellectuel. Ouais, philosophique si on veut, Yasmine. On a au 01 53 48 3000, c'est Karim qui nous appelle depuis la région parisienne. Bonsoir Karim.
Bonsoir tout le monde.
Comment ça va Karim?
Bonsoir Karim.
Ça va très bien.
Justement Karim, on abordait le cas du Paris Saint-Germain, je sais pas pourquoi.
Ça, c'est l'habitude.
Ouais. Parce que c'est qui, le Paris Saint-Germain, oui. Non, mais c'est vrai, c'est son club, hein, de Neymar. Neymar Junior, plus fort que Pelé, le roi du ballon.
Bah, il faut savoir que Neymar, il joue à domicile, hein.
Bien sûr. Ah ouais, il était.
Donc voilà, il connaît la pelouse, il connaît le terrain conquis. Et après, bon, c'était un bon match. C'était, on a vu des belles choses, et malheureusement, on a entendu et vu de très mauvaises choses.
Ouais. Très mauvaise chose. Alors, plutôt pour la sélection tunisienne à l'approche de ce mondial, parce que les Brésiliens, on a l'impression c'est bon, c'est acquis, c'est prêt, du moins.
Alors, franchement, pour l'équipe tunisienne, moi je pense que c'est un bon match de préparation.
Bien sûr, on le disait aussi.
C'est un bon match de c'est un très bon match de préparation. Et bah, qu'ils comprennent qu'un mondial, il y a des grosses écuries et que les grosses écuries sont pas là pour rigoler, quoi.
Oui, au-delà de ça.
Alors, chez qui? Bah, avec Karim, l'auditeur.
Rebondir sur ce qu'elle a dit, Karim. Le grand intérêt aussi de ces matchs-là, amicaux, que le Brésil a fait, c'est que le sélectionneur a utilisé plusieurs schémas tactiques. Et moi, c'est ça que j'aime dans les matchs amicaux. Au-delà du résultat, c'est que un match amical, il est fait pour que le sélectionneur teste sa tactique, teste ses joueurs. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pas appelé Jesus parce qu'il sait que Jesus, théoriquement, il vient. Il a pas fait beaucoup jouer Rodrigo parce qu'il sait que Rodrigo aura un rôle. Mais là, il faut qu'il choisisse entre Rafinha et Anthony. Donc, il a bien testé Rafinha. Paqueta, il l'a mis en co-meneur de jeu avec Neymar dans le premier match. Et le deuxième match, il l'a mis à gauche, presque en ailier, et il a enlevé Vinicius. Donc, il a tenté plein de choses. Il a mis Militao sur le côté.
Ah oui, non, d'accord, on parle la même langue. Hein.
Et après, donc, et ça, c'était très important. Et c'est ça que j'aime, c'est quand tu testes tes joueurs et tu testes tes tactiques. Et c'est pour ça que je pense qu'il a fait un très bon travail, le sélectionneur. J'espère que ça marchera pour lui.
Allez, pour terminer avec Karim, l'auditeur.
Alors, moi, c'est vite fait. Comment il s'appelle l'intervenant?
C'est Chekib. Chekib, notre consultant. Oui.
Chekib. Donc, Chekib, madame, tu aimes, et bon, on aime tous, alors.
Amin.
Il est plaisant, Karim.
Bah, il faut.
Mais bien sûr.
Et moi, je voudrais faire un gros, Bilal, je voudrais faire un gros clin d'œil.
Alors.
À l'espérance sportive de Sartrouville.
Ah ben, Sartrouville. Ah, il nous écoute beaucoup, voilà. Sartrouville, hein. Ouais, on a le petit jeune à chaque fois, leur entraîneur, hein, qui les dépose à chaque soir lors des entraînements, là, après les entraînements. C'est vrai.
Bah, c'est sujet des sociaux.
Ouais, ah bah c'est pour ça. Ouais, bah, c'est ça, justement, un petit clin d'œil.
Et voilà, et puis,
justement, et Karim, on va garder Karim, parce que le réalisateur va prendre sa petite adresse, et nous, on lui fera venir un magnifique bouquin, voilà, aux éditions Solar, c'est le cadeau pour Karim, l'auditeur.
Inch'Allah, pas de problème, Bilal, par contre, après, en message privé, j'ai quelque chose à te demander.
Ah, carrément, en message privé, ça va être du message privé. On prendra le message privé, c'est promis.
Inch'Allah,
il n'y a pas de problème.
Téléphone,
ah, bien sûr. Ah oui, on est beaucoup pris au téléphone, c'est ça.
Non, c'est vrai. Allez, bon courage, bonne soirée.
Allez, un grand merci. On va continuer cette émission avec. Ben, on a eu Karim, justement.
Tu
on
est diras ce qu'il t'aura demandé.
Ouais, ah, je te le dirai.
Tu
ne
peux pas
problème.
Nous faire le secret.
Non, il n'y a pas de problème. On ne garde pas le secret, notamment à l'antenne sur Beurre FM, n'est-ce pas, Viknesh?
Tout à fait.
Tout à fait. Voilà. Le 17e arrondissement nous attend tout à l'heure. Moi, il
est.
Il va lui demander de déposer à l'aéroport demain.
Non, c'est Kib. Oui, c'est Kib.
Le cancer du sein, on profite de l'émission pour sensibiliser les gens sur le cancer du sein et surtout les cancers. Et c'est vrai qu'il faut se faire dépister, c'est très important. Ouais. C'est pas une blague, on parle vraiment, c'est top. Mais il faut pas oublier l'essentiel. Faites-vous dépister. Faites-vous dépister et faites attention à vous. Et surtout, le foot, c'est pas que pour regarder, il faut faire de l'activité physique.
Voilà.
C'était la petite parenthèse sanitaire.
Ah ben oui.
Merci, c'est sincère.
Oui, sincère. Mais c'est ça, parce qu'on le rappelle, le cancer du sein et la tumeur maligne la plus fréquente chez la femme. Hein. Et oui, et voilà quoi, c'est donc le dépistage est assez nécessaire. Nous, on vous fait remporter un magnifique ouvrage sur l'antenne de Beurre FM. Rien de plus simple, vous nous contactez, vous composez le numéro du standard qui est le 01 53 48 3000. Et voilà, on vous fait passer à l'antenne une petite dédicace peut-être pour l'équipe de Tamsport, pour toute l'équipe de Beurre FM et aussi pour les proches, la famille, les amis et les personnes au travail. Voilà, si vous êtes dans à l'écoute, eh ben vous le faites tout simplement. On va marquer d'une courte pause. La dernière, non pas encore. Allez, on va partir. Eh ben on aura largement le temps. C'est super sympa ça. Pour parler de l'Olympique Lyonnais.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, justement. Ça va être un mode pressing, mais assez long. On parle de l'Olympique Lyonnais avec Laurent Blanc, qui peut-être débarquera avec un certain Ronaldo. Allez, là aussi, ça fuse. On a eu l'épisode Zidane au Paris Saint-Germain. On a eu aussi Cristiano Ronaldo du côté de la Canebière. Et là, maintenant, c'est la vallée du Rhône. Eh oui, le club rhodanien qui nous annonce donc une arrivée probable de Laurent Blanc et peut-être après Cristiano Ronaldo, pourquoi pas. Équipe Mbé aussi, on annonce, Viknesh.
Oui, bien sûr.
C'est qui,
Mbappé aussi, je crois.
Pourquoi pas, ce serait sympa.
Moi, juste pour Laurent Blanc, si vraiment il vient, je serais très content parce que, ouais, que Laurent Blanc est quand même un très bon entraîneur. Après, bon, toute proportion gardée, mais alors, c'est un très bon entraîneur. Il n'a pas vraiment fini le travail qu'il a fait. Il a bien réussi avec Bordeaux. Il a fait de très belles choses avec Paris. Donc, j'aimerais bien le voir dans un troisième club français. Ce serait très intéressant. Maintenant, pour CR7, j'y crois pas du tout. Moi, je vois pas du tout CR7 venir à ouais, Lyon. Je vais pas détailler, mais je pense pas qu'il viendra. Et Kimpembe.
On mange bien à Lyon, c'est une belle ville aussi.
Oui, non, mais bien sûr. Mais je pense pas. Non, mais je parle foot. Je pense
bien
que
sûr.
CR7 viendra pas à Lyon.
Oui,
je pense pas.
Mais il viendra avec ses enfants, avec sa femme aussi.
Et en vacances, oui. C'est très joli.
Ah mais bon
pour jouer, non. Et Kimpembe, je pense pas. Je pense
ça,
que Kimpembe est très ambitieux. Il veut aller plus haut que Paris Saint-Germain,
ouais,
et etc. Et s'il quitte Paris, ce sera pas pour rester dans le championnat français, je pense.
Paco Bellozzo.
Laurent Blanc.
Et
s'il vient à Lyon, il aura fait un petit peu le tour des grands clubs français.
Tour de la France. Ouais.
Voilà, Bordeaux, le PSG,
le Paris Saint-Germain.
Maintenant, éventuellement Lyon. Bon, l'Olympique de Marseille, il l'a fait en tant que joueur.
Oui.
Et de très très belle manière. Donc Laurent Blanc, oui, c'est quand tout à l'heure t'as dit il a pas fini son œuvre, c'est vrai que.
Alors.
Si on regarde avec avec du recul depuis l'ère Qatari, les entraîneurs du Paris Saint-Germain, en termes d'aboutissement,
ouais,
pour un choix par défaut à l'époque, Laurent Blanc est peut-être celui qui a réussi à mettre en place peut-être le plus beau football du PSG de cette ère Qatari. Et c'est vrai que on est resté un petit peu sur notre fin parce qu'on s'est dit derrière comment il va rebondir. Il a pas trouvé de nouveaux challenges, ou il a peut-être pas voulu trouver de nouveaux challenges. Moi, je serais heureux de le revoir débarquer en Ligue 1. C'est un championnat qu'il connaît. C'est un championnat que je pense qui sait manier. Et s'il remet la même touche qu'il avait mis au Paris Saint-Germain, moi je signe pour que Laurent Blanc. Après, les spéculations sur Cristiano Ronaldo, le dernier mercato nous a appris une chose, c'est d'attendre le dénouement et de plus être dans les épisodes, d'attendre est-ce qu'il va signer Olympique de Marseille, Sporting Lisbonne, Fenerbahçe.
Ouais, on verra bien.
Et basta.
Allez.
On attend qu'il signe et après, ouais, on en parle.
Eh ben, on va en reparler. C'est promis après la pause, la dernière. Avec vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Eh oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM ce mercredi 28 septembre, 20h40, à l'approche de 21h. Vous retrouverez Confidence avec Vanessa jusqu'à 23h. Ça, c'est promis, sur la radio de la diversité, toujours ensemble. On nous écoute du côté d'Aix-Marseille, le 92.6, c'est drôle aussi. Eh oui, le 92.7. Foudil est toujours là, bien cramponné sur sa table de mixage en tant que réalisateur de l'émission. On s'apprête à prendre l'auditeur qui n'est autre que Farid, qui nous appelle aussi depuis la région parisienne, au 01 53 48 3000. Toto Bellozzo, magnifique nom. Eh oui, avec Viknesh aussi qui est là. On a Yasmine, notre consultante, et sans oublier Chekib. Chekib qui a bien profité des vénoiseries. Ça, je peux vous le certifier, cher auditeur de Beurre FM. Tranquillement, Chekib. Ben oui,
il concurrence Vivien qui est.
Et aussi Yacine. Et aussi Yacine qui nous écoute ce soir.
Yacine,
c'est ça. Et nous écoute. On a parlé justement de Laurent Blanc, de Cristiano Ronaldo, double dinguerie peut-être du côté de Lyon. Allez, vous réagissez avec nous et on va aborder le cas de Lyon encore une fois.
Time Sport, le mode pressing.
Voilà, il est toujours aux aguets, le réalisateur, il est très très bon. On a aussi Yasmine, si elle veut réagir,
oui,
avant de retrouver Farid.
Je rebondis par rapport à ce qu'a dit Toto Bellozzo. Moi, je me questionne vraiment sur les réelles ambitions de Laurent Blanc. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a envie surtout d'un challenge en France? Laurent Blanc, c'est beaucoup de titres avec le Paris Saint-Germain, avec Bordeaux, plusieurs titres de champion, plusieurs titres de Coupe de la Ligue notamment. Moi, je me rappelle de la saison 2015-2016 avec le Paris Saint-Germain. Pour moi, ça a été le meilleur Paris sous l'ère QSI.
Ouais.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, selon moi, c'était pour moi le meilleur entraîneur à ce moment-là. je me pose quand même cette question-là de ses ambitions, mais surtout de la qualité encore de Laurent Blanc. C'est-à-dire qu'il est parti s'exiler au Qatar. Il a entraîné l'équipe d'El Rayyan, je crois. Il me semble que c'est ça. Il est resté, je crois, 6 mois. Il est arrivé en décembre 2020. Ils l'ont viré en février 2021. Il a fini 9e sur, je crois, sur 12 équipes sur la Qatar Star League. Donc, honnêtement, c'est pas un championnat non plus qui est hyper relevé. Qu'est-ce que vous, maintenant, Laurent Blanc? Moi, je pense que c'est un super challenge, Lyon. Il va être très bien encadré. Après, le souci, c'est que il a gagné énormément de titres parce que il avait à ses côtés Jean-Louis Gasset, qui était avec lui à Bordeaux, au Paris Saint-Germain. Jean-Louis Gasset, maintenant, qui est, je crois, en contrat avec la Côte d'Ivoire, il me semble. Donc, il pourra pas se détacher de cette équipe-là. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On parle éventuellement aussi de Franck Passy, qui était passé par l'Olympique de Marseille, éventuellement, qui pourrait l'accompagner dans cette aventure. Pourquoi moi, je pense pas. Que c'est ça serait tout bénef aussi pour le championnat français, revoir Laurent Blanc en plus à Lyon. Lyon qui, malheureusement, depuis la saison dernière, qui n'a pas pu accrocher une place européenne, qui a terminé 8e, qui a des résultats très irréguliers. Donc, je pense que Laurent Blanc peut faire l'affaire pour cette équipe.
Justement, le 01-53-48-3000, on va retrouver un supporter de Lyon avec vous, l'équipe de Tam Sport. Bonsoir Farid.
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous.
Alors comment ça va Farid? On parle de Lyon et aussi de Laurent Blanc, justement. Ça serait une folie, quoi.
Moi, je dirais que c'est un nom qui revient depuis un certain temps déjà.
Ouais.
Après, pour être honnête, on sait très bien que le président Aulas apprécie beaucoup Laurent Blanc. Il aime ce côté un petit peu manager général, comme l'est un petit peu Laurent Blanc, un petit peu à la Van Gaal. Maintenant, moi, sincèrement, l'info elle est sortie sur un site, là, le quotidien du sport. Après, quand je vois Ronaldo, tout ce qui va avec, je pense que c'est un effet à annonce. Je pense qu'on n'en est pas là encore. Ronaldo, j'y crois pas vraiment. Moi, ouais. La vraie question, c'est pas Laurent Blanc aujourd'hui et pour l'instant.
Alors, c'est quoi?
La question, c'est est-ce que Peter Bosch est toujours l'homme de la situation?
Eh oui, justement. Alors Viknesh, peut-être pour répondre dans un premier temps à Farid. On va revenir à Farid.
Est-ce que Peter Bosch est l'homme de la situation? Ouais. J'ai l'impression que non. En fait, je pense que le pauvre, il est un peu perdu. Il ne s'est pas habitué au championnat de France avec le joueur qu'il a. En fait, le problème, je pense que Lyon a voulu rendre ça avec les recrues qu'il a eu cette année, avec Lacazette, Tolisso. En fait, ils veulent mettre les joueurs de Lyon, en tout cas les former à Lyon à l'honneur comme auparavant. Mettre en avant ces joueurs-là. Et je pense que Bosch, ça ne lui correspond pas exactement. C'est pas ce qu'il voulait. Et là, il a des joueurs par défaut. Mendes en défense, par exemple, c'est pas ce qu'il faut. Enfin, en fait, il a une équipe qui lui correspond pas. Parce que à chaque fois qu'il était entraîneur, même au Bayer Leverkusen, c'était pas comme ça. Il avait énormément de jeunes, il les formait, il les faisait progresser et il les vendait bien cher, entre autres. Et là, il peut pas faire ça avec Lyon.
Bien sûr.
C'est pas le projet en question.
Ouais.
Et après, pour revenir à Laurent Blanc, bon, alors Cristiano, passons 2 secondes. Moi, j'y crois pas une seconde. Ça sera pas pour Lyon. Donc voilà, ça s'est réglé. En fait, on parle de Cristiano. Pourquoi? Parce qu'une fois, dans un match, il a parlé à l'oreille de Laurent Blanc. Et depuis ce moment-là, chaque fois qu'on est avec Laurent Blanc, Cristiano, quelque part, il y a un lien. On essaie de créer une histoire avec les deux. Alors qu'il a juste parlé à l'oreille, on sait même pas ce qu'il a dit. Il a peut-être dit bien joué pour le match ou bonne nuit, tu vas bien dormir. On sait même pas ce qu'il a dit. Donc en vrai, c'est juste une anecdote, c'est une légende avec Cristiano et Laurent Blanc. Donc ça s'est réglé. Et Laurent Blanc, en fait, pour moi, on ne connaît pas son vrai niveau.
Ouais.
Parce que l'homme qui a tout fait pour lui, c'est Jean-Luc Gasset, comme elle a dit Yasmine. C'est Jean-Luc Gasset.
Laurent Blanc, on ne sait rien faire, selon toi, quand même.
C'est un manager.
Ouais.
Après, au niveau technique,
il a bien managé le Paris Saint-Germain.
Il a bien géré. Mais tactiquement, techniquement, au niveau du jeu, c'est Jean-Luc Gasset qui a tout fait. Vous pouvez demander aux joueurs, c'est eux, ils diront ça. C'est Jean-Luc Gasset qui s'occupait de tout. À Bordeaux, c'est pareil. Donc, en fait, Laurent Blanc, après Paris, le problème, c'est qu'il a été trop prétentieux. Il s'est dit, bon, j'ai tout bien fait avec Paris. C'est Gasset qui a tout fait. J'ai une bonne cote. Il a trop visé trop haut, en fait. Et il n'y avait aucun club qui le voulait. On l'a vu depuis quelques années, il a joué au golf. Il a rien fait dans le foot. Et après, il a fini au Qatar. Et même au Qatar, il n'a pas duré. Pourquoi? Parce que Gasset, il n'était pas là. Donc c'est simple, sans Gasset, Laurent Blanc, il peut rien faire. Et s'il vient à Lyon avec Passy, ben j'aimerais bien voir ça. Oui. Et là, Gasset, il fait du bon travail à Côte d'Ivoire. On se demande pourquoi.
Allez, c'est qui avant de retrouver l'auditeur Farid.
Bien sur ce que l'auditeur disait, où il disait que lui, le sujet, ce qui l'intéressait, c'était l'OL, et ce que ça allait devenir, et est-ce que Bosch était toujours l'homme de la situation. Moi, je pense que Lyon, c'était un club à un moment top. Il a enchaîné les victoires en championnat. Il faisait des très très belles prestations en Ligue des Champions. Et après, ça s'est calmé. calmé, il est tombé un peu dans le ventre mou. Et là, à force de jouer avec les juste des places qualificatives, il a fini par tomber en dessous. Et maintenant qu'il est tombé en dessous, il est en train de se reconstruire. Et moi, quand un club se reconstruit, je suis pas pour la valse des entraîneurs.
Ouais.
Ça serait une erreur. Je pense que Bosch, c'est quand même un bon entraîneur, surtout avec ce Lyon-là. Et donc, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Dans le foot moderne, le problème, c'est que les entraîneurs sont... Déjà, ils l'étaient, mais là, c'est de plus en plus des fusibles. Et les fusibles, à force de les faire sauter, un jour, ils vont cramer. Tu peux pas, chaque fois qu'il y a un problème, « Ah, il faut virer l'entraîneur, on va régler le problème. » Ça, je pense, c'est un faux débat. Il faut le laisser bosser, lui donner du temps, encore un peu de temps. Et si vraiment il se pète les dents et qu'on a un meilleur projet, on l'enlève. Mais l'enlever, pour le, un déclic psychologique, non, moi je suis contre, je suis pas du tout pour.
Toto Bellozzo, avec Farid.
Très rares sont les entraîneurs étrangers à avoir réussi à l'Olympique Lyonnais, voire même très rares sont les entraîneurs étrangers à avoir entraîné l'Olympique Lyonnais. Sur la trentaine d'entraîneurs de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, seulement deux ou trois ont été sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Donc avec Bosch, il y a toujours cette composante où on se dit, Lyon, parce que moi je qualifie Lyon comme étant le plus grand club français à l'heure actuelle, parce qu'en termes d'identité, quand je parle d'identité, c'est vraiment un club qui ressemble vraiment au championnat de France. On va pas dire que le PSG, avec tous les internationaux et cette image liée énormément au Qatar, avec l'Olympique de Marseille qui peut-être s'est dénaturé depuis pas mal d'années. Et là, l'Olympique Lyonnais, avec le retour de Laurent Blanc, ce serait éventuellement le retour à une politique de rechercher, parce que je pense que l'Olympique Lyonnais, quand il cherche un entraîneur, il cherche toujours d'abord le meilleur français. Pour ça qu'on a parlé de Galtier à une époque, il était question de Galtier. La volonté, en tout cas, de Jean-Michel Aulas et peut-être de ses prédécesseurs, c'est toujours d'avoir cette vraie identité Ligue 1, France. Peut-être pas jusqu'à terroir, oui, mais presque.
Ça m'étonne quand même quand ils ont pris Rudy Garcia, à l'époque, c'était le meilleur des entraîneurs français quand même.
Farid, on écoute Farid l'auditeur, messieurs, dames.
C'est le plus grand symbole de la Ligue 1, tu veux dire.
Alors,
c'est
ça. Allez-y Farid, on vous écoute.
Oui, non, en fait, je suis un petit peu d'accord avec tout ce qui a été dit, sauf que juste pour revenir sur par rapport au temps qu'a eu Peter Bosch, je suis désolé, il a eu toute une saison, la saison dernière, pour construire, pour préparer. Là, on peut dire que l'effectif est à peu près le même. Hein. Faut pas non plus. Il a à peu près la même équipe, à part quelques changements. Mais moi, je trouve qu'il a déjà eu une saison, c'est énorme, surtout à Lyon. Et là, je pense qu'il est quand même sur un fil. C'est vrai qu'il a pas de chance. Quand on voit le calendrier, ils vont aller à Lens, même si après il reçoit Toulouse. Et je pense que c'est là où ça va se décider, à mon avis. Et parce qu'ensuite ils vont à Rennes, ils vont à Montpellier, ensuite ils reçoivent Lille. Donc là, c'est vraiment des matchs assez costauds. Je pense qu'il a plus trop de jokers et voilà. Donc après, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est surtout, c'est jamais évident de changer d'entraîneur en plein cours de saison.
Ouais.
Après, peut-être que lui, on va décider d'attendre le mercato d'hiver, mais ça m'étonnerait. De toute façon, il n'y a pas de mercato d'hiver. Peut-être d'ici la fin de la première partie du championnat entre les deux coupes du monde. Mais en tout cas, je pense que entre Lens. Ce dimanche et la réception de Toulouse la semaine prochaine, dès vendredi, hein, match avancé, championnat, je pense que là, on y verra un peu plus clair. Après, entre nous, excusez-moi, mais Laurent Blanc, Laurent Rouge, Laurent Bleu, Laurent Rouge, si vous voulez. Mais
c'est bien.
Peu importe, si c'est pas Laurent Blanc, ce sera un autre.
Ouais.
Mais le plus important aujourd'hui, déjà, c'est Peter Bosch. Voilà.
Alors,
comment ça va se terminer?
Merci, Farid.
Je pense, Farid, a tout à fait raison. Je comprends. Je suis complètement d'accord avec sa philosophie. Sauf que moi, ce que je veux, ce que je pense qui est mieux, c'est de la sérénité. Je pense que Lyon a besoin de se reconstruire. Elle a besoin de sérénité et de stabilité. Et bien sûr, comme il dit, Laurent Blanc, bleu, vert. C'est ça le plus important. Ça veut dire, si tu changes d'entraîneur, pour moi, tu changes si tu penses que vraiment derrière il y a un meilleur projet. Tu changes pas pour changer. Moi, c'est ça que j'aime pas. C'est
bien
quand
sûr.
Tu fais sauter un fusible pour sauter. Mais s'il y a un meilleur projet, tu l'enlèves. Si t'as pas de meilleur projet, tu mises sur la stabilité.
Et
la confiance en tant que coach.
C'est vrai, Shakib.
Entièrement d'accord avec Farid. Pour moi, il y a urgence du côté de Lyon.
Alors.
Il faut qu'ils aient un nombre de points avant cette Coupe du Monde. Ils commencent à décoller un peu du top 3. S'il n'y a pas du changement maintenant, je ne vois pas comment ils arriveront à accrocher une place européenne à la fin de la saison. L'entraîneur a eu tout le temps la saison dernière, ce début de saison aussi. Donc, au bout d'un moment, moi, je dis changement, quoi. tout.
Allez, le changement, c'est maintenant. Justement, on va prendre Nordine avant la fin de cette émission avec toute l'équipe de Tamsport. Bonsoir Nordine, comment allez-vous?
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Bilal.
Vous allez bien? On parlait de Lyon et de Laurent Blanc. Nordine, on vous écoute.
Concernant Lyon, faut pas oublier que Olas, il a acheté son stade, donc il a une pression énorme concernant les finances. Ouais. Donc sa pression se répercute sur son entraîneur et sur les joueurs. Lorsqu'il était sur Gerland, il marchait sur l'eau concernant les échecs de Paris et de l'OM. Là, maintenant, c'est plus le cas. Et il a pas de chance aussi, Olas, par rapport au manque de places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc, ça joue énormément sur le moral et ça joue sur le terrain.
Ouais. Vous êtes pour Laurent Blanc du côté de Lyon?
Déjà, est-ce que c'est officiel? Non.
Pour le moment,
maintenant,
non. Maintenant,
je revenais à la dame là qui a dit comme quoi 2016 c'était une très bonne année pour PSG, Jasmine. Ben moi, je suis pas trop d'accord parce que à l'époque il y avait Zlatan et pour moi c'était Zlatan le patron au PSG et déjà même au moment au match aller quand ils avaient perdu contre Manchester City, déjà le moral de Paris ils étaient au plus bas et quand. Lorsque Laurent Blanc a été reprolongé, deux jours après, il y a eu l'affaire Aurier. Donc déjà, pour moi, Laurent Blanc, c'était, faut pas oublier, c'était la cinquième roue du carrosse, c'était entre le dixième et le quinzième choix du PSG. Pour moi, Laurent Blanc, je sais pas ce qu'il va faire. Sans doute qu'après, il est parti au Qatar, et le club qu'il a entraîné au Qatar, c'est un club qui appartient au prince. Faut pas oublier.
Aussi, non, c'est vrai.
Donc, pour défendre un petit peu ce que disait Yasmine tout à l'heure,
on parlait
de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain en termes de créateur de jeu. C'est pas Zlatan qui met le schéma tactique. C'est très subjectif. C'est peut-être subjectif ce que je dis.
T'as vu l'équipe qu'il avait?
Laisse-moi juste terminer. Ce que je veux dire par là, c'est que, à un moment donné, il y a quand même un contenu de jeu qui, à cette époque-là, ressemblait à quelque chose. Et Laurent Blanc, on peut pas dire que c'était pas non plus l'architecte de tout ça. Oui, Zlatan avait beaucoup d'influence sur le vestiaire. Oui, Zlatan avait un rôle très important. Mais de là à dire que le jeu qui a été mis en place à cette époque-là, que beaucoup de gens reconnaissent aujourd'hui.
Il y avait des joueurs qui marchaient, alors ils étaient automatiques. Moi, après, s'ils le prennent, tant mieux. Mais moi, j'aimais bien Bruno Genesio. Voilà, Genesio. Le problème, c'est la pression qu'a Jean-Michel Aulas sur son stade. Je l'ai vu son stade, il est magnifique. Maintenant, ça joue sur les finances. Maintenant, on aimerait que Lyon revienne en Ligue des Champions.
Ah ben c'est vrai. Nordine, on n'a plus le temps, on doit laisser place à Vanessa qui arrive. Merci à vous, Nordine. Vous repartez avec un magnifique livre. Aux éditions Solar, un grand merci à notre consultante Yasmine, notre consultant Chekib, Toto Bellozzo aussi, sans oublier Vic Nesh et à la réalisation en la personne de Foudil. Allez, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM.